À minuit 4, nous accueillons sur la libre antenne Marie-France. Bonsoir Marie-France.
Bonsoir Olivier. C'est toujours un plaisir de vous entendre et c'est quelquefois très émouvant d'entendre aussi ce que Ménie Grégoire appelait les cris de la vie.
Oui.
Et hier, en particulier, j'avais été très touchée par le témoignage d'une auditrice.
Une auditrice malvoyante.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Et qui était, en plus, ce que je n'arriverai jamais à comprendre, malmenée par des voisins méchants. Il n'y a pas de doute.
C'est Monique que nous avons eu hier.
Hein?
Elle s'appelle Monique, en fait.
Voilà. Voilà. Et il n'y a pas grand-chose à faire vis-à-vis de ces gens-là. Mais on peut quand même. Je sais bien que ça doit être extrêmement pénible d'être malvoyant, de ne pas se rendre compte non plus de la physionomie des gens qui disent des méchantes choses pour peiner. Ça veut dire aussi que ces gens-là sont très à plaindre parce qu'il leur manque quelque chose. Les plus infirmes, bah c'est eux. Ce sont des infirmes du cœur.
Oui, complètement, parce que je trouve ça véritablement scandaleux. Hein. La description de ce voisinage de Monique hier, qui ne supporte pas le chien qu'on lui avait donné, donc le chien pour malvoyant, et puis cet entourage qui ne respecte pas le handicap, en fait. Vous voyez, c'est, comme vous dites, ces gens-là, ils ne savent pas ce que c'est que le handicap. Donc, c'est tellement dégradant pour le genre humain d'entendre un témoignage comme celui-ci. Je ne saisis pas.
Heureusement, ce sont des exceptions, mais j'ai entendu parler aussi du conducteur d'un Uber qui a refusé le chien d'un client aveugle.
Bon, de toute façon, avec Uber, ils s'en passent tellement des vertes et des pas mûres, ma pauvre Marie-France, que il y a plein de problèmes avec les conducteurs Uber aujourd'hui. Hein. Il y a même des problèmes de sécurité, vous voyez ?
Des problèmes de sécurité. Oui, je crois. Bon, dans la petite ville où je suis actuellement, il n'y a pas de chauffeur Uber du tout. Ce sont des taxis un peu familiaux, si vous voulez.
Oui, donc vous n'avez pas ce type de problème. Ils sont sérieux.
Ce que je voulais dire, c'est pourquoi j'avais téléphoné hier en réaction, c'était pour témoigner. Pendant que je suis encore vivante, je témoigne parce que j'ai eu la poliomyélite quand j'étais enfant, donc avant le vaccin sauveur. Et heureusement qu'il y a eu ce vaccin sauveur.
Oui.
Trouvé par les Américains, les docteurs Salk et Sabin, vraiment des bienfaiteurs de l'humanité et en plus des gens bien parce qu'ils n'ont jamais voulu tirer aucun argent de leur découverte.
Les temps ont bien changé.
Je ne veux pas le savoir. Je préfère regarder cette belle image.
Bien
et
sûr.
C'était aussi l'époque où le président Roosevelt avait été lui-même atteint de polio.
Oui.
Et c'était un peu étonnant parce que, en principe, c'était une paralysie infantile. Ça devait toucher les enfants. Et lui, il avait 30 ans quand il a contracté ce virus qui était vraiment terrible. Et il a eu les deux jambes paralysées. Mais on ne peut pas le voir parce que dans les réunions avec Churchill et les autres, ils sont tous assis, donc ça ne se voyait pas quand il était assis. Mais c'est lui qui a voulu que l'Amérique était très touchée par l'épidémie, c'était avant la Première Guerre mondiale, soit aussi la première à trouver le vaccin. Et il a vraiment tout mis en œuvre en tant que président pour que réunir des fonds, sensibiliser l'opinion, parce que c'était absolument terrifiant. Dans une famille, quelquefois, il n'y avait qu'un enfant qui était touché et qui en mourait. ou qui restaient mais vraiment très infirmes. Hein.
Oui, ce vaccin, il a sauvé des millions de vies. Hein.
C'est mondial. C'est mondial.
Je ne savais pas que c'était des Américains qui avaient trouvé ce vaccin-là.
Ah si, les docteurs Salk et Sabin. Et il y a toujours une fondation Salk aux États-Unis, mais on trouve ça sur Internet, j'ai cherché. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent encore aux États-Unis autour de la polio et des suites à longue distance de la polio.
D'accord. Et vous, vous avez été touchée, donc, Marie-France ?
Eh bien oui, j'avais 6 ans. J'étais une petite fille en vraiment pleine santé. On partait en vacances avec mes parents par le train. Et j'étais sur le quai de la gare, sur mes petites jambes. Il paraît que je souffrais, ça je ne me souviens pas. Et le voyage, on partait de l'Est vers Rouen, où nous avions des cousins. Et j'ai terminé le voyage dans le filet à bagages parce que je ne pouvais plus tenir autrement. Et il paraît que je souffrais beaucoup.
Et c'était un virus qu'on contractait comment, vous le savez ?
Eh bien, on ne sait pas.
On ne sait pas.
Dit par l'eau. Je ne sais pas. Je ne saurais jamais pourquoi j'ai été la seule enfant dans cette petite ville de 3000 habitants, où certes, la maison était près de la rivière, mais il y avait bien d'autres maisons près de la rivière avec des enfants.
Oui.
Je ne me suis pas baignée dans la rivière à cette époque-là, donc ça reste un mystère. J'ai bien une version romantique de cette histoire-là, mais je la garde pour moi parce
D'accord.
que c'est... Hein?
D'accord.
Enfin, si vous voulez, c'est une petite ville qui a été libérée par les Américains, je ne sais plus si c'est en 44-45. Et c'est une petite ville avec un boulevard circulaire, une très jolie petite ville, avec une rivière, des marronniers, tout ce qu'il faut. Et évidemment, tout le monde attendait la libération. Et ma mère qui aimait coudre et habiller sa petite fille, elle avait cousu des drapeaux qui se sont empressés de mettre aux fenêtres et elle m'avait habillée en alsacienne. Et quand les chars des libérateurs avec les GI sont passés, maman a eu une réaction un peu étonnante. Elle a tendu sa petite fille et j'ai fait tout le tour de la ville sur un
char. Ah oui.
Ouais, habillée en alsacienne. Et c'est de là que date mon goût pour le chocolat. Parce qu'ils avaient des chocolats, des cigarettes, etc. Alors forcément, ils étaient très, très bien accueillis. Et en plus, j'ai entendu parler anglais pour la première fois. Et c'était la langue de la libération. Donc, mais est-ce que j'ai pu contracter ce virus par le contact avec des GI qui étaient peut-être porteurs sains ?
Oui, d'accord. Oui, c'est possible. Mais bon, vous ne le saurez malheureusement jamais.
On ne saura jamais. Et c'est quand même une hypothèse un petit peu romantique.
Romantique, je vous l'accorde.
Un petit peu.
Si vous m'appelez aussi ce soir, Marie-France, c'est pour me dire que c'est étonnant, mais les handicapés en France subissent beaucoup de remarques et de situations un peu comme celle que Monique nous a décrite hier soir. Et je crois savoir que vous en avez vécu vous-même au moins une.
Ben, plusieurs fois. Mais bon, la polio de l'enfance, j'ai été complètement paralysée et j'ai complètement guéri. Complètement, alors vraiment guéri, parce que dans cette petite ville, nous avions des très bons voisins et en particulier une dame très dynamique qui était la responsable de la Croix-Rouge. Et c'était l'époque de l'épidémie en France. Il n'y avait plus du tout de place pour la rééducation. Et comme nous n'étions pas très loin de la Suisse, elle a réussi à me trouver une place pour la rééducation à la fois dans une clinique et dans un institut de rééducation. C'est l'institut du docteur Nico à Lausanne et il se trouve, on ne savait pas que c'était le meilleur du monde.
D'accord.
Et j'ai bien réagi et on peut dire que j'ai guéri. Il me restait très peu de choses, une faiblesse du quadriceps droit. J'en ai gardé le goût pour les exercices physiques parce que c'était extrêmement physique.
Oui.
Vraiment, c'était assez dur, mais bon, on prend l'habitude des sportifs, d'être sportif. J'ai pratiqué plus de 10 sports après et la polio était vraiment complètement oubliée. Mais vous savez bien que des grands sportifs, plutôt des grandes sportives, comme la gazelle noire, celle qu'on appelait la gazelle noire,
oui.
Ben, elle a commencé comme ça, son entraînement, elle avait eu la polio.
Ah bon ?
Je ne savais pas. Wilma Rudolph.
Je ne savais pas. Mais vous dites qu'aujourd'hui, votre maladie fonctionne par crise et que vous ne pouvez malheureusement pas prévoir. Mais quand vous allez à peu près bien, vous pouvez aussi vous déplacer sans fauteuil.
Alors, voilà. Ce qu'on ne pouvait pas savoir, c'est que vraiment la polio, c'est une maladie étrange parce que j'ai eu la polio, il y a eu cette rééducation, j'étais guérie, vraiment guérie. Et quand j'ai eu 13 ans, j'ai jamais manqué un seul jour de classe. Je suis tombée malade en été, la rééducation, ça se faisait pendant les vacances d'été, je partais à Lausanne et je revenais mieux jusqu'au jour où le docteur Nico a dit à ma mère bon, qu'il resterait une faiblesse du quadriceps droit, que ce n'était pas gênant. Et puis voilà, et puis j'ai dit à mes parents, vous ne me parlerez plus jamais de la polio. Je n'ai jamais eu la polio. Et j'ai même pris une décision, parce que ça fait mûrir très vite quand même tout ça. J'avais vu beaucoup de douleurs, j'avais vu des enfants mourir, j'avais vu des cas comme on ne peut pas imaginer. Et des gens extrêmement courageux. Et j'avais 7 ans quand un jour j'ai réalisé ce qui m'était arrivé et j'avais dit « Moi, je m'en sortirai. Et ça sera comme s'il n'y avait jamais rien eu. » J'avais seulement 7 ans. Bon, en plus, Lausanne, c'était beau. J'avais toutes les raisons pour être heureuse puisque j'allais mieux. Et bon, ben, c'était mon tempérament. Donc, j'ai vécu ma vie, ma vocation. Sans polio, avec vraiment la certitude que la vie me devait tout, parce que c'était très injuste ce que j'avais subi. Les enfants ne doivent pas souffrir comme ça. Ils ne doivent pas voir d'autres enfants souffrir et mourir. C'était très injuste. Donc je me suis mis dans l'idée que j'avais payé la facture et que la vie me devait tout. Alors je suis partie avec un tempérament de battant. Ça, il n'y a pas de doute, de battant. Et ben, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. J'ai fait ma carrière et ma vie à Paris. Et comme les livres m'avaient, on peut dire, sauvé. Avec les livres, on n'est pas paralysé, c'était l'évasion. J'ai voulu redonner aux autres ce que les livres m'avaient donné. Donc ma vie, ce sont les livres, les bibliothèques, et d'une façon extrêmement variée et diversifiée. Donc je vivais à Paris, j'avais rencontré mon compagnon de ma vie. Ben, c'était un bonheur payé cher, mais d'autant plus apprécié, puis j'étais heureuse de venir et de vivre à Paris. C'est ce que je souhaitais. Et puis vers 45 ans, alors que c'était aussi physique le travail que je faisais, c'était pas seulement intellectuel, c'était aussi physique, j'ai pas compris pourquoi j'étais beaucoup plus fatiguée, pourquoi j'avais des passages à vide physiques, pourquoi j'avais besoin de me reposer tout un après-midi pour récupérer et pourquoi c'était si douloureux. Et on a fait Mon médecin a demandé pour moi un congé de maladie parce que ça n'allait vraiment pas. J'avais le cœur fatigué par les efforts et c'est comme ça que le diagnostic de syndrome post-poliomyélitique a été établi, mais pas du premier coup du tout. Et j'ai découvert que la polio, eh bien, ça peut redonner style de vie, si je puis dire, des années après.
Oui.
Des années après. Et ça, c'était impossible à prévoir. Impossible. Alors, j'ai bénéficié d'un congé de 5 années en longue durée. J'en ai profité pour faire autre chose, pour faire un peu plus de littérature, toujours les livres. Et puis, il a fallu s'habituer à ça. Parce que moi, j'avais l'habitude de faire des efforts, d'aller vite, d'être compétitive. Et puis là, c'était tout le contraire. On vous apprend à vous ménager. Il ne faut pas aller jusqu'au seuil de la douleur. Il faut faire attention et utiliser des moyens pour se déplacer qui permettent justement de se ménager. Si ça ne va pas, le fauteuil roulant. Voilà. Si ça va bien, parce que c'est... on ne sait pas pourquoi. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où je dois récupérer alité. Et il y a des jours où je peux me déplacer, mais en fauteuil roulant. Et il y a des jours où je peux me déplacer comme je peux. Je marche, je boitille. Et ça va quand même. Et alors, ça me vaut dans l'immeuble en copropriété où je me trouve. Des réflexions effectivement très désagréables.
Du genre ?
Parce que les gens ne comprennent pas. Et en plus, la polio, ils savent même plus ce que c'est, heureusement pour eux. Et alors, quand je me suis entendue dire un jour que je sortais de l'immeuble avec mon caddie, un voisin m'a interpellée en me disant... vous simulez. Aujourd'hui, vous n'avez pas votre fauteuil roulant, c'est que vous n'en avez pas besoin. Vous simulez.
C'est incroyable.
Eh bien,
c'est incroyable.
Vous n'avez rien du tout. Et écoutez bien, je vais vous dénoncer. Parce que vous simulez.
Vous simulez.
Un jour, vous avez un fauteuil roulant, un jour, vous n'en avez pas, vous n'avez rien du tout. Et moi, je vais vous dénoncer parce que vous devez penser que je devais recevoir une prestation prestigieuse. Que ça devait me valoir des avantages extraordinaires, ça ne m'a jamais rien valu du tout. Je n'ai jamais touché aucune allocation. J'ai repris mon travail à Paris. D'une façon un peu plus souple, et j'ai pris ma retraite à 65 ans. Voilà, c'est tout à fait possible.
Et quel est le profil de cette personne qui vous a dit ça ?
Eh bien, avec votre assistante, j'en ai parlé cet après-midi quand elle m'a rappelé. Physiquement, il ressemblait à Jacques Tati, vous savez,
ah bon ?
Tout en longueur
ah
comme
oui,
ça.
Oui, oui.
Avec une toute petite tête au bout d'un grand corps, sauf que Jacques Tati est intelligent et drôle, et que ce monsieur-là était simplement très bête et méchant.
Oui.
Et quand il m'a dit ça, c'était tellement énorme que je lui ai éclaté de rire au nez.
Mais vous avez bien fait. Vous avez bien fait.
Ah ben ça a été ma réaction. J'ai trouvé ça tellement stupide.
Stupide,
que,
oui.
Ouais, et il n'y avait que ça à faire. Il était tellement loin de la réalité. Si on se rendait compte quelquefois des efforts que je fais pour marcher en ayant toujours mal, parce que c'est une souffrance permanente dès que je fais un effort, peut-être qu'il parlerait autrement. En tout cas, je vais éclater de rire au nez, mais c'est vrai que c'était drôle quand même. Il y avait une telle distance entre la réalité et ce qu'il avait imaginé, parce que je pense que c'était quelqu'un de très inoccupé. Et je lui ai dit, mais surtout ne vous gênez pas, hein, écrivez au ministère, à tout le monde, aux députés, et comme ça, ils sauront ce que c'est que les personnes invalides, n'hésitez pas. Et ajoutez, évidemment, vous devez regretter le beau temps de l'occupation.
Ben oui, mais il a eu ce qu'il méritait, hein, cet homme.
Ah ben oui. Alors, dans le florilège, il y a la petite dame qui un jour m'a dit « Vous êtes un parasite ».
Elle vous a traité de parasite ?
Ouais,
une voisine ? Une voisine ?
Hein ?
Une voisine ?
Oui, 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 une dame que je ne connaissais absolument pas, mais qui avait l'air de me connaître. Elle, une petite dame, elle passe près de moi, elle me dit « Vraiment, vous êtes une parasite ». Et je lui montre le revers de ma veste, avec la décoration quand même du mérite. Et je lui dis, je crois que c'est tout au contraire, madame.
Elle a dû être gênée.
Et vous n'avez certainement pas travaillé autant que moi. Ben, il faut apprendre à répondre.
Hein. Oui. Ben oui, mais ça n'est pas toujours facile. Mais
Non, c'est pour ça que je voulais témoigner. Le mieux, c'est de rire de ces gens-là.
C'est vrai, vous avez raison. Mais il faut avoir le sang-froid pour le faire. Parce qu'avouez quand même que c'est tout de même assez violent, ce que vous nous racontez.
Vous avez raison, c'est le mot. C'est très violent. Mais on ne peut pas changer tout le monde. Dans l'immeuble, il y a quelqu'un qui a poussé, d'ailleurs un bricoleur, qui a poussé la méchanceté jusqu'à mettre une marche. Ce qui fait que je ne pouvais pas sortir du sas de l'ascenseur. Il avait profité d'une période où j'étais partie. Quand je suis revenue, il y avait une marche de 10-15 cm de haut et autant de largeur qu'il avait construit lui-même.
Mais vous avez pu la faire enlever, cette marche ?
Oui, 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 oui. Mais j'ai eu du mal.
C'est fou, ça.
J'ai eu du mal. Il a inventé que c'était pour empêcher les inondations d'eau quand il pleuvait beaucoup. Ça inondait la cage de l'ascenseur. C'est pas vrai. C'était absolument faux. C'était pas vrai du tout. Bon, il a fini par enlever la marche, mais il a laissé un creusement quand même.
Mmh. Mais dites donc, vous êtes bien mal entouré dans cet immeuble. Rassurez-moi, vous avez quand même des voisins sympas.
Dans l'immeuble, non. Non,
non.
On ne peut pas dire.
D'accord.
C'est assez particulier. Il y a des gens gentils, mais ils ne veulent pas se faire remarquer. Et puis, parfois, il y a des gens très gentils, puis quelquefois, ils en font trop. Oh là là, la pauvre dame en fauteuil roulant. Mais s'ils savaient à quel point ils s'en fichent, la pauvre dame, d'être en fauteuil roulant ou pas, je dis toujours, c'est un moyen de
locomotion. Oui.
Comme une voiture, ben voilà, c'est des roues. Et c'est, je compare ça aux lunettes qui permettent de mieux voir, qu'est-ce qu'on met là, les lentilles, voilà. Ben voilà, ce sont des aides à la locomotion, comme il y a des aides à la vision. Et puis, j'ai beaucoup lu, évidemment, et ça m'est arrivé aussi de donner des conférences. Et j'aime beaucoup Georges Bernanos. Et un jour, je me suis aperçue que Georges Bernanos, qui est l'image même de l'énergie et de la volonté, il était en fauteuil roulant, où il avait des cannes. Ou alors, quand il était au Brésil, il faisait du cheval et il faisait de la moto.
Oui, moyen de locomotion encore.
Moyen de locomotion. Il avait eu un grave accident qui avait été causé par une voiture qui reculait. Et ça l'avait blessé quand même à ce point-là. Je me suis dit, mais jamais j'aurais pensé que Bernanos pouvait utiliser un fauteuil roulant. Il ne donne absolument pas cette image-là. Il faut avoir plus d'énergie. Que tout ça.
Oui.
Faut dépasser tout ça. Et j'avais lu un livre qui m'avait vraiment apporté beaucoup. C'est un livre de Joé Bousquet, le poète de Carcassonne, qui était resté invalide et paralysé à la suite une blessure de guerre. Et il aurait pu essayer de marcher un petit peu, mais il trouvait que ce n'était pas la peine d'utiliser son énergie pour ça. Il a préféré continuer son œuvre de son lit, où il recevait les surréalistes et puis aussi les résistants à Carcassonne. Et dans son livre « Traduit du silence », il dit « J'ai toujours eu plus de vie que ce qui me frappait. »
C'est magnifique.
Et il dit aussi « Qu'on me retire ma vie et j'en invente une autre. » Et c'est comme ça qu'en reliant tous ces destins-là, où des personnes ont été plus fortes que leur maladie, que leur paralysie, j'ai voulu en faire une conférence que j'ai plusieurs fois en Bretagne et aussi à Paris, où j'ai réalisé un rêve. Je voulais donner une conférence à l'espace Georges Bernanos, qui est dans l'église Saint-Louis-d'Antin. Une conférence sur courage et douleur, les grands écrivains vainqueurs de la grave maladie. En commençant par Bernanos, en évoquant Joël Bousquet, mais il y a aussi Blaise Cendrars qui avait perdu un bras à la guerre. Il y avait aussi un écrivain qui a eu le prix Femina. Et là, j'ai plus Jean-Didier Wolfram.
C'est magnifique,
Wolfram.
En tout cas, ma chère Marie-France. Merci beaucoup pour votre témoignage lumineux ce soir sur l'antenne d'Europe 1.
Et je voulais ajouter quelque chose, mais c'est nouveau, parce que j'essaie toujours qu'il se passe beaucoup de choses dans ma vie. J'habite un appartement que transmis mes parents. Ils l'avaient fait installer de façon à ce qu'il soit très praticable pour leurs vieux jours. Donc, il est plein pied et il est très pratique pour quelqu'un qui a des difficultés de mobilité. Mmh. Et alors, comme tout ça, ça coûte cher et que la vie est de plus en plus chère et elle est encore plus quand on a des besoins de locomotion pour ne pas rester enfermé chez soi et avoir des contacts sociaux, j'ai décidé de vendre cet appartement en viager.
D'accord.
J'ai signé quelque chose cet après-midi et si vous permettez, je voudrais dire que j'ai dit à l'agent immobilier que je souhaitais en priorité le vendre à quelqu'un qui serait invalide de quelque façon ce soit.
Ben oui. Que quelqu'un qui puisse en profiter.
Voilà, alors il m'a dit c'est discriminatoire.
Oh, bon. Donc à l'époque, on vient.
Il m'a dit c'est discriminatoire.
Mais oui, mais vous avez le droit de faire ce que vous voulez.
Moi, j'ai dit c'est positif. Cet appartement-là convient particulièrement à une personne invalide parce que tout est plein pied. Et j'aimerais qu'après moi, quelqu'un puisse avoir une vie un peu plus douce. Mes parents ont beaucoup travaillé pour ça, moi aussi. Donc, si on peut transmettre ça à quelqu'un et lui faciliter la vie, ça sera tout de même mieux. Parce que je vois, par exemple, il y a un logement social qui est très, très bien fait. Il y a des appartements qui sont dédiés à des personnes en fauteuil roulant qui sont au rez-de-chaussée. Seulement, le rez-de-chaussée donne sur un parking. Donc, ce n'est pas très sain pour la respiration. Et en vis-à-vis, ils ont le cimetière.
Oui.
Alors, c'est pas quand même extrêmement joyeux.
Oui.
Moi, je préférerais transmettre.
Mais j'espère en tout cas que ça se réalisera, Marie-France. Merci
alors,
beaucoup.
Alors, est-ce que je peux me permettre de dire que si quelqu'un est intéressé, il peut me téléphoner.
D'accord. Bah, écoutez,
je ne ferai pas la transaction, mais je l'aiguillerai vers l'agent immobilier parce que je voudrais vraiment que ça puisse se réaliser.
D'accord. Très bien. Bah, voilà. Écoutez, si nous recevons un coup de téléphone pour vous, nous vous mettrons en rapport. Merci mille fois pour votre témoignage.
Est-ce que vous me permettez d'ajouter quelque chose?
Très rapidement, s'il vous plaît.
Voilà. Je vous remercie beaucoup, Olivier. C'est sur un tout autre sujet. C'est une émission que j'ai entendue hier, pas chez vous, alors que j'écoute Europe numéro 1 très fidèlement, mais j'écoute aussi sur France Culture l'émission Les Pieds sur Terre. C'est tous les jours à 13h30. Et hier, lundi 13, de 13h30 à 14h, c'était un témoignage extrêmement important à propos des enfants qui fuguent. C'était une petite fille, enfin une petite jeune fille qui avait fugué, et son père a dit tous les efforts qu'il avait faits pour la retrouver. Il s'était adressé à la gendarmerie, ça n'avait rien donné. Il se rendait compte que le temps passait et il a été lui-même à la recherche de sa fille. Il a fini par la retrouver. Elle était la proie d'un type complètement déglingué et il était prêt à en faire, tenez-vous bien, un sacrifice humain.
Oui. Bah dis donc, ça devait être sacrément intéressant, cette émission. Bah, tout s'est bien fini, au moins.
Pardon ?
Tout s'est bien fini, au moins ?
Mais il a retrouvé sa fille juste à temps. Il a vu les instruments dans la pièce à côté. Il a sauvé sa fille juste 24 heures avant. Et les réseaux sociaux peuvent être extrêmement utiles parce qu'il a beaucoup diffusé sa recherche sur les réseaux sociaux. Ça a touché un autre père dont la fille avait aussi fugué. Et à eux deux, alors que ça faisait 3 jours qu'il n'avait pas mangé, qu'il n'avait pas dormi, mais il pouvait serrer sa fille contre son cœur, il a continué à chercher la fille de l'autre père. Et ils l'ont trouvée.
D'accord. Bon, bah écoutez, c'est
fabuleux. Et il a fondé une sorte d'association pour regrouper tous les appels de parents qui recherchent leurs enfants qui ont fugué. Et il en est au point où, sur 50 enfants disparus, il en a retrouvé plus d'une trentaine.
Bon, c'est fantastique cette histoire. Bravo, bah c'est 30 sur 50, c'est beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1, Marie-France. On vous souhaite bien évidemment longue vie et puis on vous embrasse très fort. Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Bonne soirée. Bonne
vous
nuit.
Aussi, au revoir.